et du Fils et du Saint-Esprit. Mes bien chers frères, nous voici entrés maintenant dans le carême, très franchement, avec ce premier dimanche qui nous donne le ton. Le carême est un temps de combat. Le carême est le combat contre le mal. Je voulais voir dans un premier temps le combat spirituel et dans un deuxième temps les tentations. Le combat spirituel, c'est un titre du padre Lorenzo Scupoli du XVIIe siècle que je vous recommande chaudement. C'est la Devotio Moderna. Il faut savoir être moderniste quand il s'agit de la Devotio du XIVe siècle qui se propage jusqu'au XVIIe. C'est très bon. Et donc cette Devotio Moderna nous apprend que le Christ part au combat et que nous partons avec lui. Oui, il est parti exprès. Ce n'est pas fortuitement que notre Seigneur se retrouve au désert. Il est poussé par l'Esprit et il y va pour être tenté. Et s'il part pour tenter le diable, c'est que lui, il en a la capacité et qu'il a la capacité de l'abattre, c'est-à-dire de gagner définitivement. Ce faisant, notre Seigneur n'en a pas besoin personnellement. Dieu n'a rien à craindre d'une simple créature qui est un ange, qui n'est jamais qu'une petite chose à ses yeux, mais c'est nous qui en avons besoin. C'est nous qui avions besoin que notre Seigneur emmena avec lui toute l'humanité, notre nature humaine qu'il a pris avec lui, pour que cette nature puisse vaincre. Parce que ça, c'était pas fait, parce que ça, dans la nature, nous avions perdu. Voilà que dans le Seigneur, nous partons au désert avec lui, dans toute notre nature humaine, pour gagner le combat du Christ. Voilà ce qui se passe. Alors vous aurez à cœur, durant ces temps, d'être au désert, c'est-à-dire de vous retirer, de faire ce que vous ne faites pas habituellement, de vous mettre plus à l'écoute du Seigneur. Ce combat, c'est notre combat. C'est le combat du Christ que nous menons. Contre qui menons-nous ce combat? Eh bien, c'est simple, contre le mal. Mais le mal peut prendre trois visages. Le premier et le plus habituel, je suis désolé de vous le dire, mais c'est votre propre visage. Et oui, le diable souvent presque n'a rien à faire, c'est-à-dire que ça roule tout seul. Il y a en nous des faiblesses, la faiblesse de la chair, la faiblesse de la possession intellectuelle, la faiblesse de l'orgueil spirituel. Oui, je le reverrai tout à l'heure en parlant des tentations. En général, le plus grand coopérateur, le plus grand suppôt de Satan, c'est moi. Et puis, comme cela ne suffit pas, cela peut être aussi les suggestions du monde. Le monde, qui n'est pas mauvais en lui-même, porte des choses mauvaises ou porte des choses qui pourraient nous amener ou nous détourner du bien. Car dites-vous bien que quand le diable n'arrive pas à vous tenter en direct sur une grosse faiblesse, eh bien, il vous détourne du bien. Si vous voulez, c'est le principe du moindre mal à l'envers. Le Seigneur qui nous pousse à réaliser toujours le moindre mal, eh bien, le diable nous pousse à réaliser le moindre bien, de sorte que de moins bien en moins bien, nous nous approchions du mal. Et oui, le monde est parfois objet de tentations diverses qui pourraient nous détourner du bien. N'avez-vous jamais été en vacances avec des amis extrêmement sympathiques, très bons, très gentils, qui vous conseillent, bien entendu, peut-être que comme on a beaucoup de choses à faire ce dimanche, on ira à la messe dimanche prochain, c'est pas grave, on fera une plus grande offrande, etc., etc. Le monde a ses tentations en lui-même. Et puis, bien entendu, il y a le diable qui agit in persona. Moi, je ne l'ai jamais vu personnellement, heureusement, car je ne suis pas du niveau du curé d'Ars, qui malheureusement se battait en direct avec le grappin, mais il peut effectivement, s'il le veut, arriver lui aussi directement. Il se sert en général de médiations diverses pour nous atteindre. Alors les moyens du combat sont très simples, la prière, la parole divine et le jeûne. La prière, parce qu'il nous faut converser avec Dieu, entrer dans cette action divine, c'est ça la prière. La prière, vous savez, c'est un échange perpétuel à l'intérieur de la Trinité. Et en priant, nous embrayons le pas de cet échange divin qui a créé le monde, qui le recrée et qui a mis à bas le mauvais. Voilà pourquoi vous ne pouvez vaincre le démon sans prière. Vous pouvez ensuite vaincre Dieu par sa parole, par la parole de Dieu, vaincre le démon. Sa parole qui est puissante, cette parole transmise dans l'Écriture sainte par la tradition de l'Église que vous venez d'entendre proclamer, que j'essaye maladroitement d'expliquer et que vous recevrez intimement dans la communion de désir ou factuelle que vous ferez tout à l'heure. Cette incarnation du Verbe de Dieu toujours vivant, puisque c'est le Christ lui-même et qui se rend présent à nous. Enfin, il s'agit de jeûner, de se mortifier pour que puisse vaincre le Christ en nous. Il s'agit que moi je diminue et que lui grandisse. Alors vous pouvez le prendre par tous les bouts, mais ça veut dire qu'il faut que je renonce à certaines choses. Au XVIIe siècle, le plus grand compliment qu'on pouvait donner à un homme spirituel ou à une femme spirituelle, c'était de dire que c'était un homme ou une femme renoncée, c'est-à-dire qu'il avait renoncé aux choses les plus futiles, les moins importantes, bref, qui risquaient de le détourner de Dieu. Il faut renoncer à nos petites habitudes, à nos petits goûts, à nos petites manies, à nos petites possessions, à tout ce qui semble devoir faire notre vie, et nous nous en rendons compte quand nous prenons des résolutions ô combien courageuses, je ne sais pas, de supprimer le sel ou le poivre ou le chocolat, enfin des choses complètement fondamentales, et qu'en plus on n'y arrive pas, eh bien c'est nous montrer à quel point nous tenons à notre vie tient à des petites habitudes un peu minables. Voilà pourquoi il est bon de nous faire un peu violence, de mourir à nous-mêmes dans ces choses qui ne sont pas essentielles pour que vive en nous le Christ plus intensément, que notre pensée, notre action s'y tourne complètement. Voilà, c'était le point sur le combat spirituel, mais il faut éclairer la question de la tentation, puisqu'il n'est pas banal de voir notre Seigneur, le Dieu des dieux, le Roi des rois, s'achoper à la tentation. Il y a dans la tentation trois moments, car le Seigneur évidemment n'a pas péché. Et il n'est pas question de penser qu'il ait pu avoir une quelconque part au péché. C'est que la tentation n'est pas d'abord un péché, ou plutôt elle y mène sans en être une en elle-même. Je m'explique, il y a dans la tentation trois étages, ou trois moments. Le premier moment, c'est la suggestion. Le deuxième, c'est la discussion. Le troisième, c'est le consentement. Tant que vous êtes dans la suggestion, il n'y a pas de péché. C'est pourquoi le diable amène à notre Seigneur différentes propositions, toutes plus pécamineuses les unes que les autres, mais voir le péché, voir la chose mauvaise, n'est pas péché. Il y a un deuxième temps dans la tentation, c'est la discussion. Et vous avez bien vu que notre Seigneur prend bien soin de ne pas discuter avec le diable. Il lui rétorque des paroles de l'Écriture sainte, c'est tout. La seule parole qu'il lui dit à la fin, c'est « va-t'en ». Il n'y a pas de discussion possible avec le diable si vous entrez, comme dans la Genèse, en discussion avec le malin, eh bien, il y a fort à parier qu'il le sera plus que vous et que vous vous ferez berner. Non, notre Seigneur n'entre pas dans la discussion, même si le moment de la discussion n'est pas encore un péché. Évidemment, le péché, vous le comprenez, arrive au troisième temps de cette tentation, qui est le consentement, c'est-à-dire consensus, mes sens font un avec cette tentation, avec le mal qui m'est proposé, je le désire et je le veux, voici que le mal est entré en moi. Oui, le mal entre dans l'homme par son cœur, c'est-à-dire sa détermination rationnelle et volontaire qui fait un péché. En clair, pour prendre un exemple plus parlant, peut-être pour les louveteaux et les louvettes, mais peut-être pour tout le monde en fait, si mercredi dernier, qui était jour de jeûne et d'abstinence, c'est-à-dire, alors vous n'y êtes pas tenu, vous êtes trop jeune, mais c'est de 16 à 61, à 60 ans, hein, vous êtes tenu au jeûne et à l'abstinence, après vous faites ce que vous pouvez. Eh bien, si vous êtes dans cette catégorie, vous êtes tenu au jeûne et à l'abstinence, c'est-à-dire vous priver de quelque chose et en plus ne prendre qu'une collation dans la journée, c'est les jours les plus durs, mercredi décembre, vendredi saint. Eh bien, si vous avez fait ça mercredi dernier, que passant devant une boulangerie, vous avez vu un gros éclair au chocolat qui vous faisait de l'œil, vous n'aviez pas péché encore, évidemment. Hein, c'est simplement un éclair au chocolat. Ceci dit, c'est déjà une occasion de péché. Hein. Le Vendredi Saint, en Alsace, maintenant c'est plus comme ça, mais quand j'étais plus jeune, eh bien, le Vendredi Saint, les bouchers, les charcutiers et les pâtissiers vidaient leurs vitrines et mettaient à la place le Vultum Christi, c'est-à-dire une effigie du Christ en noir, de sorte de rappeler à tout le monde de ne pas être une occasion de tentation. À bon entendeur, essayons. Bref, si vous avez vu la tentation, vous n'avez pas péché. Ensuite, si vous avez commencé à discuter, hein, parce que vous êtes un bon chrétien, que vous avez déjà jeûné ce mercredi des cendres, et que, après tout, vous avez beaucoup travaillé, par exemple, moi j'ai dit 5 messes, enfin, non, j'ai pas dit 5 messes, j'étais à 5 messes, j'en ai dit 3, et alors, moi j'ai déjà fait beaucoup pour le Seigneur, alors j'ai jeûné, cet éclair après tout n'est pas si gros, et puis il n'est pas si cher, alors peut-être que, bon bref, je suis en pleine discussion, vous voyez que je m'approche du péché, mais je n'ai pas encore péché. Le péché entrera quand je déciderai intérieurement que cet éclair, je le mérite, et qu'après tout, ayant les 3 ou 4 euros dans la poche nécessaires, ça dépend du quartier de Paris où vous trouvez, eh bien, vous avez de quoi l'acheter et que vous allez le faire. Voilà que notre Seigneur est entré dans ce premier temps de la tentation et a refusé, c'est un exemple, plus vous refusez tôt le péché et sa suggestion, plus vous serez fort dans le combat. Mais il y a plus, les 3 tentations que vit le Christ résument en fait, dit saint Thomas d'Aquin, toutes les tentations de l'homme. Et oui, notre Seigneur, il lui est proposé des tentations sur les 3 faiblesses essentielles de l'homme. La première, c'est la concupiscence de la chair. C'est pourquoi le diable lui propose, puisqu'il a faim, de transformer des pierres en pain, ce qu'il peut parfaitement faire, et le diable le sait très bien, car le diable sait qui est Dieu. Et donc, il lui propose de manger, tout simplement. La tentation de la chair, qui est sans cesse présente dans l'homme, comme une constante de sa propre matérialité, il ne faut pas vous en inquiéter ou vous en scandaliser, simplement, nous avons une faiblesse dans notre chair. L'esprit est prompt et la chair est faible, dit saint Paul, c'est naturel. La deuxième tentation que lui propose, je vais prendre la troisième, mais l'ordre, je préfère cet ordre-là qui est celui de Saint-Luc, nous venons de lire chez Saint-Matthieu, mais il me pardonnera puisqu'ils disent les 3 mêmes tentations. La deuxième tentation pour l'homme, à mon avis, est celle des yeux, c'est-à-dire celle qui fait considérer les choses et qui nous fait vouloir les posséder. L'envie, la possession, la richesse, tout à moi, à moi, à moi. Alors c'est pourquoi il amène notre Seigneur en haut d'une montagne et d'une très haute montagne, il lui montre tous les possessions de la terre et il lui dit « je te donnerai tout ça ». Bien entendu, le diable est menteur, cela ne lui appartient pas, sinon très temporairement. Et notre Seigneur va lui répondre évidemment qu'il n'adorera que Dieu et pas aucune autre idole. C'est encore un sujet de méditation pour nous, pour pouvoir rejeter nos idoles. La tentation du pouvoir, la tentation qui vient par les yeux, disent les spirituels, le deuxième étage de notre faiblesse. Le troisième est la plus grave et la plus dangereuse de toutes les concupiscences, la concupiscence spirituelle. Tenter Dieu. Pour eux-mêmes, d'ailleurs, se mettre à la place de Dieu, le diable emmène notre Seigneur en haut du pinacle du temple et lui dit « voilà ». Parce que le diable, lui aussi, a lu la Bible et lui dit « si tu te jettes en bas, eh bien, il est marqué dans le psaume que nous avons entendu très longuement chanter, dans une certaine paisibilité, pour vous dire que ce combat est paisible et que nous ne sommes pas inquiets puisqu'il est déjà gagné. » C'était la raison de ce très long trait que vous avez entendu. Eh bien, il l'amène au pinacle du temple et lui dit « eh bien, voilà, montre que tu es Dieu, quoi. » Or, notre Seigneur, qui est Dieu, n'est pas venu pour sa propre gloire, mais il est venu pour la nôtre, c'est-à-dire pour que nous soyons vivants. Il est venu pour abattre le démon qui ne va pas le tenter, qui n'arrivera pas à vaincre dans cette tentation aussi grossière de faire à croire à notre Seigneur que c'est pour sa propre gloire qu'il est venu. Ce sont les 3 tentations fondamentales de l'homme, et si vous réfléchissez bien, c'était déjà les 3 tentations du péché originel. Souvenez-vous. Le serpent dit « Le jour où vous en mangerez, tentation charnelle, vos yeux s'ouvriront, tentation intellectuelle des yeux, et vous serez comme des dieux, tentation de l'orgueil spirituel. » Voilà pourquoi, dans le péché, eh bien, ils virent que le fruit devait être savoureux, tentation charnelle, qu'il était agréable à regarder, tentation intellectuelle des yeux, qu'il était désirable pour acquérir l'intelligence, c'est-à-dire la participation de Dieu, sinon Dieu lui-même, tentation spirituelle. Notre Seigneur a vaincu. Il a été tenté sur tous les points de toutes nos faiblesses. Il a vaincu en tout point. Voilà comment vous serez servis par des anges si vous suivez le combat du Christ dans la petite mesure de vos possibilités, mais si vous le faites vraiment, le Seigneur vous donnera vraiment la victoire spirituelle, c'est-à-dire la victoire éternelle dont vous vivrez pour toujours. Ne nous laissons pas duper par quelques attraits temporaires et matériels ou même illusoires d'un pouvoir mondain. Dieu seul donne la victoire, Dieu seul donne la création elle-même, et même la chair que nous possédons est déjà un don de Dieu. Le temps du carême est une remise de tout nous-mêmes à Dieu, dans notre chair, dans notre esprit et dans notre âme, car nous ne sommes qu'à Dieu, nous ne sommes les enfants que du Christ. Ainsi soit-il.